voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Martin Kénéen rencontre Bertrand Delanoë. Ce soir, Bizerte.
Bertrand Delanoë, vous êtes, aux yeux de tous, un homme politique, c'est-à-dire un homme de conviction et d'engagement, un homme d'action et de pouvoir. Vous êtes un homme politique, mais un homme politique atypique. Vous êtes parisien, bien sûr, élu et réélu maire de Paris entre 2001 et 2014, mais vous êtes aussi tunisien depuis l'enfance. Vous êtes aveyronnais d'adoption, vous êtes montmartrois, vous êtes de gauche, mais vous êtes issu d'une famille de droite, vous êtes socialiste et libéral, vous êtes un homme public, pudique, qui avait fait le choix de révéler votre homosexualité en 1998, vous êtes un homme fidèle en amitié, puis vous êtes un grand solitaire, vous êtes amateur de fêtes, mais aussi d'errance, comme Apollinaire dans Zone. Alors, pour mieux vous suivre dans votre parcours et à la rencontre de ce que vous aimez nommer votre idéal, qui est un idéal de liberté, je vous propose d'aller ensemble, cette semaine, au gré de nos conversations, de Bizerte jusqu'à ce que vous nommez l'utopie concrète, en passant par Rodez, où vous vous êtes engagé au sein du Parti Socialiste à l'âge de 22 ans, dans le 18e arrondissement de Paris, que vous avez représenté au Conseil municipal, dont vous avez été élu député, et puis à l'hôtel de ville de cette cité, de cette capitale que vous avez transformée. Alors commençons, peut-être non pas à Tunis, Bertrand Delanoë, où vous êtes né, mais à Bizerte, à environ 70 kilomètres, là où vous avez 60, là où vous avez grandi jusqu'à vos 14 ans et où vous retournez volontiers, passer du temps. Et pourquoi pas débuter à Aïn Meriem, cette plage où vous vous baignez enfant, est-ce que vous nous la décririez et peut-être nous décririez-vous aussi le garçon que vous étiez à cette époque ?
D'abord, quand j'étais enfant, je ne me baignais pas à Aïn Meriem. C'est maintenant que je me baigne à Aïn Meriem. Aïn, c'est la source. Meriem, c'est le prénom Marie, qui est Meriem en arabe, Myriam en hébreu et Marie en français. Donc, Aïn Meriem, qui est un endroit que j'aime beaucoup, où il y a une jolie plage, où il y a de bons amis surtout, c'est la plage de l'adulte. La plage de l'enfant, c'est le sport nautique, c'était une plage privée, et c'était une plage qui, jusqu'à l'indépendance, était réservée aux Français. Les Arabes ne pouvaient pas y entrer, et ça m'avait d'ailleurs un peu frappé, parce qu'il y avait des barbelés entre cette plage-là et une plage à côté publique qui était qualifiée de plage des Arabes. Et c'est après l'indépendance, à partir de 1956, j'avais donc 6 ans, que ce club privé est devenu ouvert aux Arabes, évidemment. Et il y avait donc voilà des Français, des Arabes, c'était très mélangé, c'était très bien. Et c'était beaucoup de joie de vivre, beaucoup de plaisir. Moi, j'y allais pendant les plus de 3 mois où on n'avait pas d'école. On y allait absolument tous les jours, je me précipitais le matin à 9h jusqu'à la fin de la matinée, parfois on y retournait l'après-midi, il y avait des régates, il y avait une ambiance entre toutes les personnes qui fréquentaient ce lieu, qui était chaleureux, et c'était un paradis pour les enfants. Et on a, là, dès qu'on avait 6-7 ans, les parents s'occupaient plus de nous, parce que c'était plutôt encadré, vous voyez. Donc c'était vraiment un lieu de liberté. Et la mer, oui, c'est fondamental. C'est là que mon père, à 4 ans, je crois, après m'avoir appris beaucoup de mouvements de natation, m'a jeté dans l'eau. Bon, il s'est jeté aussi à côté pour veiller à ce que je ne coule pas, mais voilà. Et puis j'ai nagé. La mer, son odeur, tout ce qu'il y a autour de la mer m'a vraiment façonné enfant.
Et cette image du paradis, c'est en même temps contrasté, comme vous l'évoquez, par la présence de ces fils barbelés, à la fois la liberté et l'inégalité.
Oui, mais heureusement, moi je suis né en 1950, donc sous le protectorat, mais l'indépendance est survenue quand j'avais 6 ans. Donc ça m'a frappé, mais très vite j'ai eu le plaisir de vivre la Tunisie indépendante, et donc une Tunisie très mélangée, où les Tunisiens, les Arabes, prenaient le pouvoir. Et donc ça n'excluait pas les Français, même s'il y avait quelques tensions, normal après des décennies de colonisation, mais il y avait surtout un vivre ensemble qui était magnifique. D'ailleurs, quand nous étions enfants, bon, moi je vivais dans une famille très française, qui avait un mode de vie très français, mais les odeurs, l'Aïd, c'était important. J'étais à l'école avec des enfants arabes, on était différents et joyeux ensemble. Moi j'étais dans une école catholique, tenue par des religieuses. Et quand certaines de mes copines adolescentes faisaient Ramadan, les bonnes sœurs étaient attentives à pas leur mettre de pression, à pas les embêter parce qu'elles faisaient Ramadan. Donc c'était naturel pour nous que chacun vive son identité sans conflit. Nous étions sur une terre musulmane en plus. Et les catholiques vivaient normalement, les juifs aussi, hein, il y avait une synagogue. Si vous voulez, moi, enfant, notamment lorsque la Tunisie a été indépendante, je n'ai pas perçu tellement le conflit des cultures. Après les conflits politiques, oui, un peu, parce que il y a eu encore des difficultés entre la France et la Tunisie, notamment en 1961. Un drame, pour moi, une prise de conscience. Hein.
C'est le débarquement de l'armée française. Vous avez 11 ans?
Oui, j'avais 11 ans et bon... Il y a une base militaire très importante à Bizerte et c'était resté un peu dans le flou sur quand elle serait évacuée, quoi, parce que les Tunisiens voulaient leur souveraineté totale, c'est normal. Mais il y avait une ambiguïté entre De Gaulle et Bourguiba sur quand ça se passerait. Et il y a eu une conjonction. De Gaulle à la fois avait besoin de montrer qu'il avait de la force, et Bourguiba, au sein du mouvement des non-alignés, était un peu perçu comme trop complaisant avec les anciens colonisateurs. Donc il avait besoin de démontrer que lui aussi, il était combatif. Bon, bref, tout ça a donné un drame, parce que les Tunisiens ont créé un souterrain qui conduisait à la base militaire française. Les Français l'ont pas accepté, évidemment. Et donc, mais ça a créé un conflit très dur, où il y a eu un mélange à la fois de présence française, pour moi qui étais un gosse, je venais d'avoir 11 ans, la Marseillaise, les paras, tout ça, c'était pas mal. Hein. Mais j'ai vu aussi, tout de suite, le drame que ça a provoqué, parce qu'il y a eu un vrai conflit, des centaines ou des milliers de morts, selon les appréciations. Moi, j'ai vu que ces jeunes Tunisiens, qui étaient des militants nationalistes, tombaient comme des mouches, quoi, devant chez moi. Alors là, je me suis dit, c'est plus rigolo du tout. Ma mère nous avait autorisé dans la chambre de ma sœur, on avait une vue sur toute l'avenue qui s'appelait à l'époque l'avenue de France, qui était la principale avenue de Bizerte, à regarder, à condition que les volets soient baissés jusqu'à nos yeux, quoi. Bon. Et donc on a regardé, oui, moi j'ai regardé, et là, j'ai vu la guerre. J'ai vu la disproportion des forces entre l'armée française, évidemment mieux équipées, plus nombreuses, plus expérimentées, et ces militants armés tunisiens, des batailles de rue, et devant chez moi. Et j'ai vu les cadavres de ces jeunes, ça m'a traumatisé, vraiment. Alors, je suis sûr que c'est à la base de mon engagement, de ma conception, de la liberté, de la justice. Et le fait colonial, évidemment, m'a marqué. C'est-à-dire que je n'imagine pas qu'un peuple puisse être dominé économiquement, politiquement, militairement. C'est-à-dire la liberté d'un peuple vaut la liberté des individus. Et donc cette révolte, cette colère, cette tristesse, parce que c'était très triste, ça a gâché cette enfance qui était si belle et si harmonieuse. Et j'ai pris conscience du drame. J'ai pris conscience qu'il y avait le malheur aussi. Et donc, oui, l'impact a été fort.
Bertrand Delanoë, cette enfance tunisienne à Bizerte, c'est donc l'amour, mais aussi le malheur. C'est la découverte de l'injustice, de l'inégalité, mais aussi la convivialité. Et vous dites, c'est encore un peu de magie. Vous dites, il y a en Tunisie, une magie culturelle, intellectuelle et spirituelle. Est-ce que vous avez le souvenir, peut-être, De formules magiques, qui sait, en arabe, ou de quelques sorcelleries dans votre enfance?
Oh, je le dirais pas comme ça, mais je dirais que les Tunisiens, c'est un peuple magnifique dans son rapport à la vie. Ce sont des Phéniciens, hein. C'est un peu comme les Libanais. Ce sont des gens qui vivent intensément les drames. Quand on pleure, on pleure, hein. Mais quand on rit, on rit. Et donc, les Tunisiens, quelles qu'étaient les époques, ça fait maintenant 67 ans que je les fréquente, et de plus en plus, puisque j'y passe maintenant presque la moitié de mon temps. Et donc, ce que j'aime beaucoup chez les Tunisiens, c'est d'abord leur capacité d'absorption de toutes les cultures. Ils ont été beaucoup colonisés, hein, pas que par les Français, les Turcs, les Espagnols. Bon, puis il y a toujours eu un melting pot en Tunisie. Et les Tunisiens aiment la différence, aiment la culture des autres. Et ils ont une capacité d'être heureux. Vous savez, ils en ont vécu, hein, des crises. Et puis, ils ont connu la dictature de Ben Ali. Après la Révolution, ils ont connu quand même une situation économique et sociale particulièrement difficile pour les classes moyennes, les classes populaires. Et en même temps, ils peuvent pas s'empêcher d'aimer la vie, quoi. Et d'aimer les autres. Moi, je crois que je leur dois ce goût des autres. C'est un peuple qui aime les autres en même temps, qui est très fier de son identité et qui a une manière d'être nationaliste au bon sens du terme, sans jamais être agressif. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles, puis il y en a bien d'autres, hein, parce que quand même une lumière, il y a la mer, il y a un art de vivre, il y a une lenteur, il y a un charme, quoi. Je suis pas sûr d'être objectif, hein, il y a 67 ans de vie, mais c'est vraiment un peuple particulièrement attachant.
Mais votre identité à vous dans cette enfance, Bertrand Delanoë à Bizerte, vous êtes tunisien d'origine, vous y tenez, mais vous êtes aussi, si on remonte un peu dans votre histoire familiale, malouin, avec un Terneva, un grand-père, un arrière-grand-père Terneva, vous êtes un peu périgourdin, vous êtes un peu anglais, vous êtes un peu italien. Comment est-ce
Beaucoup
que
italien.
beaucoup italien
Des deux
par
côtés. Si vous voulez, je suis que français, aimant déjà la Tunisie. C'est plus tard que j'ai adopté vraiment la culture tunisienne. D'ailleurs, quand je dis aujourd'hui à mes amis tunisiens, qu'est-ce que je suis, moi? Est-ce que je suis un Français de Tunisie? Ils me disent non. Ah, quand même. Est-ce que je suis un immigré? Ils me disent non. Je dis, mais qu'est-ce que je suis? Et ils m'ont dit, tu l'as dit une fois. Tu as dit que tu étais le fils de la Tunisie. Donc pour nous, tu es le fils de la Tunisie. Ce qu'on dit souvent, d'ailleurs j'ai eu un message hier d'un copain, c'est Yahouya, mon frère. C'est un peu normal. Vous allez acheter votre pain, vous dites merci, barakallahu fik, Yahouya.
Je vous parlais de sorcellerie tout à l'heure. Il y a volontiers dans toutes les sociétés, et pas seulement en Tunisie ou au Maghreb, mais des formes de superstition. On dit que tous les jours de vote, d'élection, vous aviez coutume de donner rendez-vous aux mêmes amis au restaurant, et peut-être même au même restaurant, Bertrand Delanoë.
Ah oui, bien
Et c'est une
sûr.
trace de
À
aussi de
Montmartre, enfin,
superstition familiale ou.
non, pas du tout. Je suis pas superstitieux, mais j'aime bien les rites. Et il y en a un en Tunisie. Quand quelqu'un s'en va, vous lui jetez un verre d'eau pour qu'il revienne. Et donc, moi, je le fais évidemment à tous mes amis. Chaque fois qu'ils partent, je jette un verre d'eau. Alors, d'ailleurs, maintenant, mon employé tunisien, chaque fois que je pars, moi, il me jette un verre d'eau.
Mais alors les jours de
Alors,
vote
oui,
à
ça, c'est autre
Paris,
chose.
vous
Mais ça,
jetiez
c'est plus
quoi? Vous jetiez
l'enfance.
des verres de vodka derrière
Non,
l'épaule à
pas
la
du
Russe?
tout. Pas du tout. Ah non, les Russes, c'est encore autre chose. Hein. Donc, non, la tradition, mais qui vient beaucoup plus tard, c'est que les jours d'élection, je déjeune, oui, avec des proches, très proches. Voilà, ça me plaît, je l'ai fait quand j'étais candidat aux législatives, je l'ai fait pour des municipales, je l'ai fait pour les scrutins où j'ai été élu maire de Paris ou réélu. Alors des fois c'était plus familial, ça dépend. Quand mes filles étaient là, je leur disais mais c'était pas des déjeuners de 40 personnes, hein,
Mais si c'est un
de
rite.
7-8 personnes. Et j'aimais bien, c'était sympa. C'est-à-dire que au moment où vous êtes dans l'engagement par rapport à la vie collective, et vous allez faire quand même des sacrifices pour exercer un mandat. C'est pas mal aussi d'être, voilà, avec votre cocon affectif et de dire je rends compatibles les deux.
On va revenir au gré de nos conversations sur vos campagnes, vos conquêtes, vos victoires, Bertrand Delanoë.
Mes échecs aussi.
Et vos échecs, parce que, puisqu'on évoque la Tunisie de votre enfance, la Tunisie, vous ne l'avez jamais tout à fait abandonnée, et on dit que vous y êtes en particulier retourné en 1986, au lendemain d'une défaite aux législatives.
D'une défaite, d'un échec dans un parachutage raté,
dans le Vaucluse.
Mais à la suite duquel j'ai décidé de ne pas être candidat. J'aurais pu être candidat et élu. François Mitterrand, Lionel Jospin me l'avaient proposé. Hein, donc, non. À ce moment-là, je décide, parce que j'ai 36 ans, qu'il faut que je fasse autre chose. Et que je suis en train de me trahir moi-même si je fais de la politique toute ma vie. Je venais de l'entreprise privée. J'avais un rapport à la politique qui est un rapport assez indépendant. Et je me suis dit, tu vas pas faire ça toute ta vie. Donc j'avais un manque. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de ne pas être candidat aux législatives, après un échec, et donc de ne plus être député, et de me jeter un peu dans le vide, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune protection. Il n'y avait pas de RMI, il n'y avait pas d'indemnité de chômage, rien du tout. Donc pendant 6 mois, j'ai rien gagné, j'ai monté mes entreprises. Mais c'est vrai que c'est au même moment, en 86, d'ailleurs tout de suite après les législatives, alors que je tâtonnais encore sur mon avenir professionnel, que j'ai commencé à aller passer des séjours un peu plus longs.
Mais il y avait l'intention, au-delà de se dépayser, ou peut-être de se retrouver, d'aller y chercher quelque chose, d'y puiser quelque chose en particulier.
Ah, il y avait l'idée claire du retour aux sources, bien sûr, et de la profondeur, c'est-à-dire de plus y aller une semaine, mais d'aller, oui, j'avais un besoin de Tunisie. Un besoin de Tunisie au moment où, je vous dis, à 36 ans, je savais qu'il fallait que je me pose des questions pour me reconstruire. La vie politique pendant une petite dizaine d'années avait été très absorbante. Et comme j'étais jeune, que j'ai exercé des responsabilités très jeunes, j'ai été élu au Conseil de Paris, j'avais 26 ans. Hein. Donc tout ça est allé très vite, un peu d'orgueil, peut-être d'autosatisfaction. Bon, il y a des choses qui vous échappent. Vous passez à côté de vous-même. Et pour me reconstruire, pour me retrouver, il fallait passer par Bizerte, évidemment. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai décidé que j'aurais toujours un pied-à-terre à Bizerte. Et depuis 1986, je ne suis jamais allé à Bizerte en touriste.
Cette Tunisie de votre enfance, vous le disiez, Bertrand Delanoë, quand vous naissez, c'est encore un protectorat français. Oui. Aujourd'hui, la Tunisie est indépendante, elle est... toujours en bouleversement, puisqu'il y a eu cette révolution de Jasmin, la chute de Ben Ali. Est-ce que cette histoire de la Tunisie a quelque chose à nous apprendre, ou a quelque chose d'une leçon pour la politique, ou pour l'exercice de la politique en France? Est-ce que vous y avez puisé des choses, dans, en particulier l'histoire récente de la Tunisie, qui sont, selon vous, de nature à nous éclairer?
J'y ai puisé d'abord quelque chose qui m'a certainement beaucoup influencé lorsque j'étais maire de Paris. C'est-à-dire le goût des autres, le goût de la diversité et le fait que dans notre laïcité, dans nos principes républicains, et moi je ne suis pas croyant, c'est bien de mettre l'identité des autres et que c'est le destin de Paris. Le destin de Paris, c'est d'être une ville cosmopolite et une ville qui se réjouit de l'apport des autres. C'est comme ça que Paris est grand. Bon. Et je suis sûr que cette enfance bizertine, ce goût que j'ai acquis en Tunisie de la différence, m'a influencé beaucoup dans mon mandat de maire de Paris.
Vous voulez dire qu'il faut affirmer la différence
Il faut l'aimer, mais il ne faut pas enfermer dans la différence. Je suis contre le communautarisme. Je déteste les ghettos, les enfermements. Mais c'est tellement bon de découvrir quelque chose. C'est tellement bon de connaître la culture des autres. C'est tellement bon de se prendre à aimer des gens que vous n'aimiez pas parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils avaient des caractéristiques et que ça vous semblait inaccessible. Mais c'est une des richesses principales de la vie, sinon la richesse principale de la vie, en tout cas de la mienne. C'est de ne jamais cesser d'aimer et donc de découvrir. Et par définition, si on s'aime entre semblables, ça peut être ennuyeux. Bon, mais vous parlez de la Tunisie d'aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, c'est que la Tunisie d'aujourd'hui, c'est 11 millions d'habitants, pas de ressources naturelles, un pays qui arrive à faire quand même des miracles, à réussir à faire une révolution sans la trahir, à installer la démocratie, à rester lui-même, et que on n'épaule pas suffisamment. Je sais bien que l'État tunisien doit faire beaucoup de réformes, doit redresser une situation qui n'est pas bonne du point de vue économique, social, et du point de vue même du fonctionnement de l'État. Je le sais, tout ça. Je sais même que dans les premières années de la Révolution, des décisions prises en matière politique, embauche de 200 000 fonctionnaires, augmentation sans... Enfin, beaucoup de démagogie. Hein. Tout ça plombe les finances publiques tunisiennes et rendent la tâche du gouvernement actuel extrêmement difficile. Mais enfin, ils ont quand même réussi à redresser la situation en matière de sécurité, hein, avec la frontière qu'ils ont avec la Libye. Ils ont réussi à ramener une paix civile, sociale, et ils ont réussi à installer la démocratie, parce que s'il y a beaucoup de déceptions vis-à-vis des hommes politiques, tous, hein, qui sont un peu comme en France, vous voyez, ils passent leur temps sur les plateaux de télé, les égos sont démesurés, bref. Mais il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de penser ce qu'on veut. Enfin, le président nonagénaire, si Belgique, Aïb Essebsi, a pris quand même le 13 août une décision qui s'est mise en œuvre un mois après, selon laquelle une femme musulmane peut épouser un non-musulman sans qu'il se convertisse. Citez-moi un pays arabe, musulman, qui a fait ça. C'est une révolution. Alors là, vous parliez de notre rapport à la Tunisie. Les papiers en France ont été très insuffisants. C'est-à-dire que on va vous en faire des tonnes sur une manifestation de l'intégrisme radical à un moment, bon, d'accord, c'est bien. Mais là, cette révolution, c'est Bourguiba instaurant l'IVG avant la France. Parce que Bourguiba a instauré l'IVG avant la France. Bon, et là, Siméji, qui est quand même aussi un politicien, hein, bon, je connais bien, j'aime beaucoup, mais c'est quand même un politicien classique. Bon, c'est magnifique ce qu'il a fait. En termes d'égalité, en termes de civilisation, c'est énorme. Eh ben, on n'en a pas parlé en France. Bon. Et puis, je le redis, ce petit pays de 11 millions d'habitants qui a des difficultés économiques considérables, franchement, le FMI et les pays d'Europe pourraient être un peu plus intelligents, parce que ça coûte pas cher d'épauler ce pays-là. Donc, voilà, on peut penser que je le dis avec ma subjectivité de Tunisien, mais je le dis avec ma rationalité de Français et de Tunisiens, ma rationalité de Français qui a géré des budgets. Eh ben, c'est pas difficile d'épauler un peu mieux la Tunisie.
En disant cela, on entend que vous vous échauffez un petit peu, Bertrand Delanoë. Et puisqu'on parle de votre enfance, de vos racines, de votre origine tunisienne et méditerranéenne, on peut peut-être dire un mot de votre tempérament, qui a aussi quelque chose de méditerranéen. On vous dit parfois éruptif, vous confessez des réactions que vous qualifiez de dynamiques. D'où cela vous vient-il, ce tempérament, justement,
de Bizet ?
Je
ne suis pas une expression très gentille pour dire que je suis colérique. Il dit « les vifs ». Bon, donc j'ai été très très décideur, j'ai fait preuve d'autorité, j'ai assumé. Et je ne le regrette pas, parce qu'il y a quelque chose qui me frappe. J'étais 13 ans à la tête de la mairie de Paris, et j'ai été sévère, je le dis franchement. Et aujourd'hui, mes anciens collaborateurs, qui ont monté une association, des anciens collaborateurs de Bertrand Delanoë, on va se réunir bientôt pour la 5e fois, ils sont une centaine, et je leur dis souvent, mais quand même, comment vous pouvez être à ce point fidèle, alors que j'ai pas été commode, quoi. Et bon, je vous dirai pas ce qu'ils me répondent, mais apparemment, ils ont pas l'impression d'avoir perdu leur temps. Donc il y a eu aussi des rapports humains.
Il y a des vertus politiques, parce que je lisais Machiavel en préparant notre entretien, Le Prince.
Toi, vous avez où il tort, est notamment parce que j'ai pas beaucoup de points communs.
Ah, vous avez été quand même le premier magistrat de la cité, donc prince au moins à ce titre-là, et puis On vous dit fidèle et donc bon prince.
Vous avez raison.
Machiavel dit qu'il vaut mieux être bouillant que circonspect. C'est-à-dire que pour vous, il y a des qualités politiques aussi à être colérique, comme vous le dites.
Non, il faut assumer l'autorité. Faut pas. Moi, j'ai eu des regrets quand même parce que il est arrivé que mon exigence me conduise à peiner injustement telle ou telle personne. Mais dans ce cas-là, je ne mettais pas longtemps à m'excuser et à réparer parce que. Autant j'assume totalement, et si j'avais à nouveau des responsabilités, ce qui ne se produira pas, je n'hésiterai pas à être de nouveau autoritaire, et je pense on en reparlera à d'autres moments, on a des comptes à rendre, on a à vérifier tous les jours qu'il y a harmonie entre votre idéal et ce que vous réalisez concrètement dans les actes. Bon. Et donc, il faut effectivement assumer l'autorité. Et l'autorité, c'est pas la complaisance. Donc voilà, il faut pas blesser, et simplement quand vous disiez mon tempérament, c'est pas la même chose quand vous n'êtes pas en responsabilité, quand vous avez du temps, quand vous n'avez pas de contraintes, l'autorité, honnêtement, j'ai plus tellement à en faire preuve, quoi. Voilà, je reste quelqu'un de décidé, et je suis pas dans la mollesse ou dans laisser aller, j'aime pas trop, non. Mais bon, voilà. Ce qui était le temps du commandement, vous voyez, j'assume et j'emploie le mot, n'est pas le temps de la réflexion, du recul, de l'art de vivre aussi, ce que je vis aujourd'hui.
Tiens, vous n'êtes plus du tout volcanique.
Je peux m'emballer. Si vous voulez, j'ai aucune envie de devenir indifférent. J'ai envie de m'enthousiasmer. J'ai envie d'aimer une pièce de théâtre, une musique. J'ai envie d'admirer. J'adore admirer. Je disais un jour à Anouk Aimé que admirer, c'était prendre du plaisir. Et je crois qu'elle aimait bien que je dise ça. Ça ne s'appliquait pas qu'à elle d'ailleurs. Et j'adore. Je trouve que l'être humain produit des richesses extraordinaires. Ça peut être des richesses humaines, ça peut être des richesses artistiques, ça peut être plein de choses. Et moi, je n'ai pas envie de devenir froid. Et j'espère qu'à mon dernier souffle, j'aurai encore la passion de m'enthousiasmer pour ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est noble, ce qui est riche, ce qui est... Voilà, je n'ai pas l'intention de devenir indifférent... Je réserve l'indifférence aux gens haineux, aigris. Et ça, c'est vrai que je peux devenir très indifférent. Mais vous voyez, c'est donc pas volcanique, ça.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kénéen avec Bertrand Delanoë. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Hélène Langlois, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.